Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
Et c'est l'heure du journal. Bonsoir Sophie Dussault.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Il est 19h sur Europe 1. Très bonne soirée à tous.
C'est une marée orange qui a déferlé aujourd'hui sur la France. Des milliers de chasseurs ont manifesté un peu partout pour défendre les chasses traditionnelles d'oiseaux interdites depuis le mois dernier.
Un grave accident cet après-midi à Fontainebleau, près de Paris. Une femme a foncé avec sa voiture sur les terrasses de plusieurs cafés. On fait le point sur ce qui s'est passé dans ce journal.
Le torchon diplomatique brûle entre la France, les États-Unis et l'Australie. La rupture d'un méga contrat de sous-marins français avec Canberra tend les relations entre les alliés au point que Paris rappelle ses ambassadeurs.
La mort d'Abdelaziz Bouteflika hier soir, l'annonce du décès de l'ancien président algérien chassé du pouvoir par la rue en 2019 ne fait pas beaucoup réagir dans le pays. Correspondance à suivre.
Le football derby Lens-Lille, des incidents dans le stade de Bollard. Nous serons en direct tout à l'heure.
La tendance météo, Valérie Dramont.
Eh bien, un ciel bien sombre, bien maussade et bien pluvieux sur la moitié est du pays, tandis que la façade ouest retrouve quelques belles éclaircies et le soleil perdure en Méditerranée grâce au vent qui souffle en rafale jusqu'à 70 km/h.
Météo complète à la fin de ce journal.
Europe 1.
À 7 mois de la présidentielle, les chasseurs étaient bien décidés à défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, ils ont manifesté partout en France pour protester contre l'interdiction de certaines techniques traditionnelles de chasse d'oiseaux.
Oui, comme la chasse avec des filets ou encore des cages, des techniques interdites le mois dernier par le Conseil d'État. Ils étaient 42 000 dans le pays, 16 000 à Mont-de-Marsan dans les Landes, 12 000 à Amiens, où vous étiez pour Europe 1, Maximilien Carlier.
C'est une marée de gilets oranges au son des cors de chasse. 12 000 participants selon la police, un défilé bruyant mais pacifique, une véritable démonstration de force pour Nicolas.
C'est une grosse réussite. Moi j'ai assisté à des manifestations, notamment en Paris en 98 où il y avait beaucoup de déchets et tout ça. Mais là cette année on a pu constater que les chasseurs respectent aussi les villes.
Une mobilisation pour défendre les chasses traditionnelles, la ruralité, et c'est bien ça d'ailleurs l'enjeu comme l'explique Gérard.
Je pense qu'il y a un monde qui se crée entre le monde de la ville et le monde de la campagne. On est régulièrement attaqué de toutes parts. Il faut juste réaffirmer notre présence et aussi montrer que nous sommes des gens responsables. Maintenant, on manifeste et on verra bien la réponse des politiques dans les années à venir.
Des politiques, des élus, il y en a dans le cortège. Xavier Bertrand, président de région et candidat à la présidentielle.
Moi, je ne laisserai pas attaquer la chasse. Et encore une fois, que ce soit dans la région et si les Français me font confiance, il n'y aura pas de remise en cause de la chasse. Jamais.
Les chasseurs, un électorat très courtisé. Ils représentent 1 million de pratiquants selon la Fédération nationale. Amiens, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et on en parle avec nos débatteurs juste après votre journal. Sophie, on en vient à ce grave accident cet après-midi à Fontainebleau avec des scènes de panique dans les rues de la ville.
Oui, une femme a foncé avec sa voiture sur plusieurs terrasses de café. Des blessés sont à déplorer. Thibault Hue, que sait-on de ce qui s'est passé?
Oui, ça s'est passé à 16h. Une voiture fonce légèrement. Une voiture fonce sur 3 terrasses dans le centre-ville. Selon nos informations, 6 personnes sont légèrement blessées, dont 3 ont été transportées à l'hôpital. La conductrice est une femme inconnue des services de police. Elle a été interpellée. Et tout près de l'accident, Michel travaille sur un manège. Il est témoin de la scène.
Moi, je me suis dit, c'est une voiture kamikaze, elle va foutre tout le monde dans l'air, quoi. Cette voiture a pris le virage devant le carrousel, elle venait de la rue Grande. Et après, elle est montée sur le café Les Délices. En plus, après, elle a reculé sauvagement en marche arrière et a voulu s'enfuir. Elle a repris la route de France. Et après, elle s'est réengagée derrière le carrousel où il y a 3 cafés, où là, elle a terminé sa course. Et quand elle est sortie, elle rigolait.
La conductrice souffre apparemment de troubles psychologiques. Elle est en ce moment en garde à vue.
Merci Thibault. Et autre événement dramatique aujourd'hui à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, en marge de l'American Saloon, un rassemblement de bikers. Une bagarre a éclaté entre une 50aine de motards. Une personne a été tuée à coups de couteau, 2 autres sont gravement blessés.
10e samedi consécutif de mobilisation des antipasses sanitaires, 180 défilés partout dans le pays.
Une mobilisation, oui, alors que le cap des 50 millions de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été franchi et que Emmanuel Macron envisage d'alléger le pass sanitaire dans les régions où le virus est le moins actif.
Outre-mer, la situation reste en revanche tendue, comme en Polynésie. 8 patients très gravement atteints sont d'ailleurs en cours d'évacuation sanitaire vers la métropole. Un transfert inédit au vu de la distance.
20 heures de vol via Point Pointe-à-Pitre. 35 soignants, 2 tonnes de matériel voyagent avec les patients, tous maintenus en coma artificiel. L'urgentiste Patrick Peloux a préparé l'opération.
La difficulté technique réside dans le fait que les patients qu'on ramène sont des patients qui sont très graves et donc il faut beaucoup d'oxygène pour alimenter les machines qui sont les respirateurs. Donc, par exemple, il faut 15 000 bouteilles d'oxygène. Et puis transformer en fait, l'avion en véritable salle de réanimation. Ce n'est pas parce que là, l'épidémie se calme sur l'Hexagone qu'il faut oublier les départements et territoires d'outre-mer qui sont la France et qui font partie de nos priorités. Et donc, il fallait absolument aller chercher ces malades potentiellement graves, sachant qu'on peut les sauver. Je pense qu'il faut saluer cet exploit médical et voir que c'est quelque chose d'exceptionnel, mais qu'il fallait faire à plus d'un titre.
L'urgentiste Patrick Peloux.
On a appris cette semaine que les données d'environ 1 400 000 Français ont effectué un test PCR l'année dernière ont été piratées.
La PHP a porté plainte. Paul-Olivier Gibert, président de l'association des correspondants de données personnelles, se veut toutefois rassurant.
C'est un commencement de début d'usurpation d'identité. Les données perdues sont des données qui sont finalement assez limitées. Plutôt que de s'inquiéter, être vigilant sur effectivement un certain nombre de mails ou de SMS que l'on peut recevoir. Ces numéros de téléphone peuvent être réutilisés pour des tentatives d'escroquerie. À partir du moment où vous avez des informations de ce type-là qui circulent, par exemple, ça peut être chaîné avec des informations de type bancaire. Si des coordonnées bancaires ont été volées, le numéro de téléphone permet de faire des liaisons entre, par exemple, le numéro de sécurité sociale et des informations bancaires. Et là, c'est quelque chose qui peut devenir beaucoup plus embêtant pour la personne, mais ça suppose d'avoir en faire face à un hacker qui est quand même déjà très sophistiqué.
Paul-Olivier Gibert, président de l'association des correspondants de données personnelles.
19h07 sur Europe 1, on le disait tout à l'heure dans les débats d'Europe Soir, c'est une première historique dans la diplomatie française. Paris a rappelé hier soir ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Une crise déclenchée après que Canberra a mis un terme à ce méga contrat d'achat de sous-marins français de 56 milliards d'euros.
Un torpillage à la suite d'un partenariat conclu entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni pour contrer la Chine et qui a donc exclu la France. Jean-Sébastien Soldaini, maintenant que les ambassadeurs sont rappelés, que peut-il se passer ?
Eh bien, tout l'enjeu sera d'aller chercher des excuses de la part des USA et de l'Australie, ou du moins des explications sur l'intérêt politique d'une telle manœuvre. Et puis, il faudra obtenir des compensations financières. Patrick Martin-Jeunier, spécialiste de relations internationales à Sciences Po Paris, ne voit pas de difficulté à cela.
Ce contrat est un contrat secret, il n'a jamais été publié, mais il y a des clauses au terme desquelles, lorsque vous rompez un contrat de façon unilatérale, et si la France n'a pas commis de faute, ce qui semble être le cas, bien qu'on l'accuse d'avoir pris du retard, bien sûr qu'il va y avoir des compensations financières qui devraient se chiffrer à plusieurs centaines de millions d'euros, sachant déjà que l'Australie a engagé entre 2 et 3 milliards d'euros dans le projet, donc ce sera un désastre financier également pour l'Australie.
Tout dépend de l'endroit où Paris va placer le curseur dans ses protestations et du ton qu'elle va employer. Il ne faut pas surréagir au risque de s'aliéner des alliés précieux et indispensables. D'ailleurs, vous noterez que la France n'a pas convoqué l'ambassadeur américain. C'est le niveau au-dessus en termes de mécontentement diplomatique. Il y a une petite raison à cela, c'est que le poste est vacant depuis le début de l'année, depuis l'investiture de Joe Biden.
Jean-Sébastien Soldaini, dans l'actualité politique, l'ouverture du congrès du Parti Socialiste à Villeurbanne, sans Anne Hidalgo qui a annulé sa venue au dernier moment, un PS qui ne change pas de tête. Olivier Faure a été officiellement reconduit dans ses fonctions de premier secrétaire ce matin, après le vote des adhérents jeudi soir.
Et durant ce congrès, ce qui retient l'attention, c'est donc l'absence d'Anne Hidalgo. La maire de Paris, fraîchement déclarée candidate à la présidentielle, a annulé sa venue au dernier moment. Dans l'actualité également, la mort d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président algérien, est donc décédé hier soir à l'âge de 84 ans.
Il avait été chassé du pouvoir en avril 2019 par les manifestations du mouvement pro-démocratie Irak après 20 ans passés à la tête du pays. Khaled Drarini, vous êtes le correspondant d'Europe en Algérie. Peu de réactions dans les rues d'Alger aujourd'hui.
Les seules réactions à propos de la mort du président Bouteflika, c'est évidemment sur les réseaux sociaux. Les Algériens sont partagés entre ceux qui le regrettent et qui le comparent avec l'actuel président et ceux qui disent aussi et qui rappellent que ce n'était pas un grand démocrate, Abdelaziz Bouteflika, puisqu'il a été renversé par la rue en avril 2019. La question qui se pose aujourd'hui, c'est celle sur son enterrement. Aura-t-il droit à des funérailles nationales ou pas ? Pour l'instant, la présidence algérienne annonce seulement des drapeaux mis en berne, pas de deuil, pas d'obsèques officielles. On ne sait d'ailleurs toujours pas où est-ce que Abdelaziz Bouteflika sera enterré. Est-ce qu'il sera enterré au carré des martyrs du cimetière officiel de l'Alia ou alors dans le cercle familial dans un petit cimetière d'Alger? Toutes ces questions n'ont toujours pas de réponse pour le moment, alors qu'on est à quelques heures de son enterrement.
Khaled Drarini, correspondant d'Europa en Algérie.
Ce week-end se tiennent les journées européennes du patrimoine. La possibilité de visiter des lieux qui d'ordinaire sont fermés au public. 13 000 au total, répartis partout en France, avec pour thématique cette année « Faisons vivre notre patrimoine ».
Un patrimoine auquel les Français sont attachés. On se souvient de l'élan de générosité après l'incendie de Notre-Dame pour sauver l'édifice. Eh bien, hasard du calendrier, c'est aujourd'hui, en parallèle de ces journées, qu'on apprend que la reconstruction de la cathédrale de Paris va pouvoir commencer après plus de 2 ans de travaux. La phase de sécurisation et de consolidation est terminée. Emmanuel Macron avait promis que l'édifice serait reconstruit en 5 ans. Le chantier ne devrait pas être terminé dans ce délai. Toutefois, une messe devrait pouvoir y être célébrée le 16 avril 2024, 5 ans exactement après l'incendie. Philippe Jost, directeur adjoint de l'établissement public chargé de la reconstruction de Notre-Dame.
Tout ce qu'on a fait pendant 2 ans, c'est de consolider ce qui doit l'être, c'est sécuriser les voûtes. On a, par exemple, élevé des échafaudages et posé des cintres en bois qui sont des grandes structures qui s'appliquent sous les voûtes, qui donc ne peuvent plus tomber. Donc c'est à la fois sauver le monument et c'est assurer aux intervenants du chantier des conditions de sécurité pour leur travail. C'est une étape de franchie et une haie en cache une autre. La prochaine haie, c'est d'assurer le bon engagement des travaux en menant à bien ces appels d'offres pour choisir les entreprises qui vont réaliser les travaux de maçonnerie, de charpente. Et la ligne d'arrivée, c'est la réouverture de la cathédrale en 2024. Et on est tous vraiment arc-boutés sur cet objectif qui est notre ligne d'horizon qui ne nous quitte pas.
Philippe Jost avec Nicolas Feldman pour Europe 1.
On passe au sport, Sophie, et on commence par le foot.
6e journée du championnat de France de Ligue 1. La rencontre entre Lens et Lille est toujours en cours car il y a eu des incidents à la mi-temps, Sébastien Boué.
Exactement, le match aurait dû être terminé depuis maintenant 15 minutes, mais des incidents ont éclaté à la mi-temps ici au Stade Bollard. Des supporters lensois, ils étaient plus d'une centaine, ont traversé la pelouse et sont venus devant le parquage des supporters lillois. Ils sont 1200 cet après-midi, voilà, pour les provoquer, voire en découdre. Les CRS ont dû intervenir pour repousser tout le monde et éviter que ça dégénère. Un supporter a tout de même été évacué sur civière. Situation très tendue et surtout scène incroyable. Seulement 3 semaines après les incidents de Nice-Marseille, les esprits ensuite se sont apaisés et le match a pu redémarrer avec une petite demi-heure de retard. Mais là voilà, la fête est gâchée. Ce 113e derby du Nord entre les deux équipes devait être une fête. Il a laissé place à un triste spectacle. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire à jouer dans cette rencontre et c'est Lens qui mène, but de Frankowski à la 74e minute.
Sébastien Boué à Lille pour Europe 1.
Et de Ligue 1, il en sera évidemment question dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Pierre. Au sommaire, on va revenir évidemment sur ces incidents entre Lens et Lille, puisque en effet, quelques semaines après les incidents de Nice-Marseille, ça pose question. Fallait-il reprendre le match? Est-ce que la sécurité des joueurs, mais également des supporters, était assurée? Et puis surtout, avec le retour du public dans les enceintes. Autre question, est-ce qu'on ne se dirige pas de nouveau vers des matchs à huis clos si la sécurité n'est pas assurée? Donc on en débattra avec nos experts, notamment les anciens joueurs Marc Libra et Jimmy Algerino. Au programme également, avec un coup d'envoi à 21h, un match entre Saint-Étienne et Bordeaux, deux clubs historiques de la Ligue 1, mais deux clubs qui sont très mal classés, 18e et 20e. Donc c'est un match effectivement très tendu. Et puis on fera notre tournée européenne le samedi. C'est le football étranger évidemment, avec l'Angleterre notamment et Manchester City, l'adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, tendu avec ses supporters après un 0-0 face à Southampton. Et puis en Espagne également, Antoine Griezmann a de plus en plus de mal à retrouver des couleurs avec l'Atlético de Madrid, son ancien club, qui est de nouveau son club désormais, 0-0 contre l'Atleti Bilbao.
Merci pour ce beau programme, mon cher Lionel Rousseau.
Oui, Europe 1 Sport, hein, c'est donc à partir de 20h sur Europe 1, évidemment.
Merci Sophie Tussaud. La météo, Valérie Darmon, et le mauvais temps. Demain, c'est pour la façade est.
Tout à fait, car on retrouve la perturbation de ce samedi en fin de course sur la façade est, plus exactement sur les régions allant de l'Île-de-France au Grand Est, à la Franche-Comté, avec des pluies assez durables. L'extrême nord du pays reste à l'écart de ce mauvais temps. Dans l'ouest et le sud-ouest, on va retrouver un ciel plus variable et hésitant entre éclaircies et passages nuageux, pouvant s'accompagner d'averses éparses de la Bretagne aux plaines du sud-ouest. Dans le sud-est, entre la Provence et la Corse aussi, le vent
vent va se renforcer, soufflant aux alentours de 70 km/h. Les températures affichent, comme le ciel, des couleurs contrastées, frais dans l'est, sous la perturbation, avec 17 à 19. Les températures ailleurs qui seront souvent comprises entre 20 et 23, 24 à 27 dans le sud-est.
Merci Valérie Darmon.